Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Avant de commencer, je voudrais vous indiquer que nous prenons beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast et à recevoir vos feedbacks. Donc si vous voulez nous faire plaisir, suivez-nous sur Twitter et retweetez-nous quand nous publions un nouvel épisode. Cela contribuera à nous faire connaître et nous encouragera à continuer. Je rappelle que nous allons faire tout notre possible pour publier un épisode par semaine et cet épisode sera disponible le dimanche soir. Donc tout de suite, un épisode avec un invité. Que dis-je, un invité, une sommité du domaine de la cybersécurité, puisqu'il s'agit de Stéphane Bortsmeyer, qui vient de réaliser une présentation dont le titre évocateur est « Faut-il refaire l'Internet en partant de zéro ?» Alors ce soir, qui sont les contributeurs No Limites Sécu? Nous avons donc Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Éric Leblon.
Bonsoir à tous.
Jean-François Audenard.
Salut.
Et moi-même, Johan Uloa. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Donc, merci beaucoup de participer à ce podcast. Alors, selon toi, quelle est la situation en ce qui concerne Internet?
Alors, d'abord, si on prend la situation actuelle de l'Internet, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que ça ne va pas du tout, que c'est une catastrophe. Pour l'aspect, notamment pour la sécurité informatique, on a tout le temps des problèmes, on a les attaques par déni de service contre lesquelles on peut pas faire grand chose, on reçoit du spam, on se fait hameçonner, on n'a pas beaucoup de vie privée, il y a des traces qu'on laisse à chaque fois qu'on fait un acte, même aussi banal que d'acheter un journal, il y a peu de contrôle, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et il y a des problèmes de congestion, ça se bloque, on regarde une jolie vidéo de loutre sur YouTube et tout à coup elle s'arrête. Et puis d'un point de vue plus technique, on a de plus en plus de mal à déployer des nouveaux services. Il y a des pare-feux partout, par exemple, qui ont comme politique que tout ce qu'ils ne connaissent pas par défaut est interdit. Donc déployer un nouveau protocole de transport comme SCTP, des nouvelles applications qui osent ne pas tourner sur le port 80, devient de plus en plus difficile. Bref, la situation est mauvaise.
Messieurs, des commentaires?
Moi, je suis pas d'accord sur le point de vue de la sécurité. Il faut pas refaire Internet. On est dans le plan d'emploi en ce moment avec tout ce qui marche pas. Donc, il vaut mieux rester comme ça.
Ah, je n'ai pas dit que pour l'instant, je n'ai pas encore dit s'il fallait le refaire ou pas. J'ai essayé de faire un exposé de la situation actuelle et du vécu des utilisateurs. Pour la troisième fois, ils ont eu un gros problème de sécurité dans la journée et qui disent quelques gros mots et qui disent, qui sont tentés de dire, zut, c'est n'importe quoi, faut tout refaire en partant de zéro. Mais c'est vrai que ça part d'une expérience objective qui est que, l'Internet, c'est quoi? C'est la jungle, c'est le Far West, c'est la zone de non-droit, c'est n'importe quoi.
Je suis pas totalement d'accord avec le fait que les utilisateurs disent qu'il faut refaire Internet. Ils se font certes pirater à gauche, voler leur mot de passe à droite, mais ça reste des sites individuels. Mais personne ne remet en cause l'Internet. On dit « Ah, mais moi, je vais pas citer de marque parce que sinon il faut donner 10 euros, je crois. » Mais « Ah, mais tel site… »
Ça va augmenter.
Ça va augmenter. 10 CHF maintenant. Tel site de réseau social, il a fuité mon mot de passe. Oh là là, c'est des branques, etc. Mais personne ne remet en cause fondamentalement l'Internet. Personne ne réalise qu'en fait tous les sites sont fabriqués avec le même code merdique et les mêmes librairies buggées.
Alors, s'il y a des gens, enfin, ce qui m'avait inspiré pour cet exposé que j'avais fait aux journées du logiciel libre à Lyon, c'est que s'il y a des gens qui remettent en cause Internet, au sens où ils disent qu'il faudrait techniquement le refaire en partant de zéro, l'idée est que, alors je dis pas que ça s'étend effectivement au grand public, en matière de sécurité, il est résigné. Moi j'ai toujours été étonné de l'incroyable patience des utilisateurs avec les problèmes informatiques, par exemple qui continuent à utiliser Windows malgré le temps qu'ils perdent avec les virus, malware et tout ça. Il y a une résignation qui est très forte chez les utilisateurs. Par contre, chez certaines personnes, par exemple dans le milieu de la recherche, il y en a qui disent qu'il faudrait au contraire refaire les choses de zéro avec des concepts tout à fait différents, disruptifs, c'est un de leurs mots favoris, et en repartant de zéro, et naturellement pour ça, il faudrait leur donner des subventions pour qu'ils puissent faire des recherches dans ce sens. Donc ça existe, et ce courant a souvent l'oreille de la presse, comme on l'a vu je cite dans mon exposé un article, un dossier de Science et Vie en 2008 qui dit qu'Internet est au bord de l'explosion, ou bien un interview dans l'Express la semaine dernière avec Internet est un marécage, Internet va partir en quenouille, des expressions comme ça. Et ce courant a également l'oreille d'un certain nombre de financeurs, par exemple à l'Union européenne, et on trouve des projets, enfin on dépense d'ores et déjà pas mal d'argent pour des projets de type « on refait tout l'Internet ». Même si je suis d'accord que M. Michu n'est pas au courant et n'y pense pas.
Mais refaire l'Internet, ça veut dire que, enfin, la question, c'est pragmatiquement, on recommence par quoi ? On arrête IPv4, on met IPv6, ou faut créer IPv9, ou est-ce qu'on a quand même des choses à récupérer, ou à contrario, on fait avec et on crée un gros machin nouveau en mode overlay au-dessus ?
Bah, si on considère que l'Internet était basé sur la confiance, et je ferais comme Tolstoï et je dirais guerre IP, quoi.
Et tu sors, toi.
La question était très bonne, de savoir refaire l'Internet, oui, mais comment ? Parce que c'est effectivement le cœur du problème. Les projets dont j'ai parlé, demandent des subventions pour refaire l'Internet, en général, leur projet n'est pas bien défini. Il y a des vagues promesses, souvent contradictoires. Souvent, il n'y a rien de bien précis, ou quand c'est bien précis, c'est sur un secteur très restreint. Donc, pourquoi maintenant, quel était le problème à l'origine ? Internet, fondamentalement, souvent, il est vu comme une machine. Et une machine, on se dit, elle est bien conçue ou mal conçue. Et si elle est mal conçue, on la jette et on la remplace par une machine meilleure. Mais c'est une erreur de perspective. Parce qu'une machine, elle a été conçue, peut-être par quelqu'un d'incompétent, mais elle a été conçue, c'est-à-dire quelqu'un y a pensé, on a fait les plans. Et la machine finale correspond à peu près au plan. Alors que Internet, c'est plutôt un système complexe qui certes au début a été conçu, enfin, du moins je l'espère, mais qui ensuite a énormément évolué et ne donne pas ce qui est le résultat de cette évolution, lui n'a pas été vraiment conçu ou prévu. Il n'y a personne qui s'est assis autour d'une table et qui a dit alors on va faire un truc qui permet les attaques par déni de service. Ou bien, alors on va faire un truc où il y a des pare-feux partout. Personne ne l'a réellement décidé, mais ça s'est trouvé comme ça au fur et à mesure de l'évolution. Donc je pense que la question de savoir si Internet a été bien conçu au début, en fait, elle n'est pas très intéressante, puisque de toute façon, Internet a évolué, et a évolué comme évoluent les organismes vivant, actif, c'est-à-dire que sans jamais qu'on reparte de zéro et en rajoutant des choses qui marchent plus ou moins bien.
Donc si on reboot l'Internet, on fera peut-être quelque chose de bien sur la base de tout ce qu'on a pu apprendre de façon collective sur ces 15-20 dernières années, mais fondamentalement on devra rebooter encore une fois l'Internet dans 15 ou dans 20 ans.
Je te suis bien. Si c'était ça, ça serait super. On aurait 15 ou 20 ans tranquille, et puis après, ça se dégraderait à nouveau. Mais je pense pas que l'histoire de l'Internet soit l'histoire d'une dégradation par rapport à un truc bien au début. Je pense que l'Internet a évolué et a su réparer un certain nombre de problèmes, d'autres avec plus ou moins de succès. Et je pense pas qu'en repartant de zéro, on fasse mieux pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le problème est difficile. Même si on partait de zéro avec la connaissance qu'on a, avec tout ce qu'on a accumulé depuis 20, 30 ou 40 ans, il y a des problèmes qui ne sont pas vraiment solubles. Enfin, l'exemple du spam est un problème classique. Il y a eu d'innombrables propositions pour mettre fin au spam. La plupart d'entre elles ont été des flops. Certaines ont marché, ou en tout cas ont permis de garder le problème sous contrôle, de le garder de manière qu'on puisse continuer à utiliser le courrier. Mais énormément de conditions ont été faites qui, en général, avaient en commun qu'elles résolvaient les trois quarts du problème et ne traitaient pas du tout le reste, et donc avaient une faille énorme qui permettait aux spammers de s'y introduire. Ou alors avaient le défaut qu'il fallait que tout le monde s'y mette en même temps. C'est-à-dire que beaucoup de propositions ont été faites par des gens qui comprennent pas que l'Internet, c'est avant d'être un réseau de machines, c'est un réseau d'humains et d'organisations, et qu'il faut, pour déployer quelque chose, il faut qu'il y ait un accord des gens. Sinon, ben, ça ne sera pas déployé. Donc, les propositions sur le spam, beaucoup ont échoué là-dessus, c'est-à-dire elles étaient peut-être bonnes, mais n'ont pas réussi à avoir un enthousiasme suffisamment grand pour être déployé. Donc, même quand on sait, même quand on ne peut pas forcément résoudre le problème, parce qu'on s'attaque à des problèmes difficiles et qu'il n'y avait pas d'équivalent avant. Mais surtout, il y a quelque chose de bien plus important, qui je crois est le gros défaut de toutes les propositions radicales, disruptives, de refaire Internet, c'est oui, mais pour faire quoi? Pour quel cahier des charges? Parce que dans la liste des problèmes d'Internet, par exemple, au début, j'avais cité qu'il n'y avait aucune vie privée, qu'on laissait des traces partout. Et j'avais également cité qu'il n'y avait pas de contrôle, que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi en étant anonyme. Et personne n'a bondi ou m'a interrompu en disant « Mais ces deux affirmations sont contradictoires, c'est l'une ou c'est l'autre. » Et oui, effectivement, c'est l'une ou c'est l'autre, mais si on cherche des subventions et des succès médiatiques, c'est pas bien si on se focalise sur tel ou tel élément, il faut tout promettre à la fois. Et donc la plupart des gens qui proposent de refaire l'Internet, ils promettent tout à la fois. J'ai vu une fois un dossier envoyé à Bruxelles, par exemple, où les auteurs proposaient un réseau où il y aurait un anonymat parfait et en même temps une traçabilité complète. Ils ne savaient pas vraiment comment ils allaient faire. Ça avait l'air joli comme ça, mais il y a beaucoup de propositions qui sont de ce style-là parce que les auteurs voudraient le beurre et l'argent du beurre. Ils ne veulent pas trancher, ils ne veulent pas décider ce qui est important ou pas. Et là encore, le spam fournit un parfait exemple. Si le cahier des charges, c'est supprimer le spam, rien d'autre, c'est que ça. Moi, j'ai une proposition simple, c'est qu'on décide qu'avant chaque envoi d'un message, il faut avoir une autorisation du CSA qui examinera le message et qui dira oui ou non. Si on fait comme ça, on supprime le spam. On supprime aussi l'intérêt du courrier. Mais si par contre on a un cahier des charges qui est « je voudrais supprimer le spam, mais que Alice puisse écrire à Bob, même si elle ne l'a jamais vu, jamais rencontré, qu'elle puisse lui envoyer un message pas cher et sans délai », à ce moment-là, le problème est beaucoup plus difficile. Donc c'est le point important quand des gens disent « il faudrait refaire Internet », c'est de leur demander « ok, mais quel est votre cahier des charges ? Avant même les solutions techniques, quel est votre cahier des charges ? Qu'est-ce qui est très important pour vous et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier par contre ?
Oui, tu peux nous en dire plus sur ces gens, enfin, tu as des projets précis en tête sur ces gens qui veulent changer Internet ? Parce que d'habitude, les projets européens, les trucs de recherche et tout, on n'en entend jamais parler. Enfin, un gars dans un coin qui dépose un dossier, qui reçoit un peu d'argent et puis...
De temps en temps, ils font quelques petits trucs médiatiques. Par exemple, en ce moment, c'est l'ICN qui est à la mode, l'Information Content Networking. Il y a plusieurs projets qui tournent autour de cette idée et ça circule dans les milieux où les subventions circulent. On voit des projets qui passent. Il y a RINA, l'Université de Boston. Avant, il y avait des projets comme Genie ou Clean Slate. Clean Slate était dirigé à Stanford, si je me trompe. Donc, ça revient régulièrement. Des fois, ça va plus ou moins loin. Mais enfin, la plupart du temps, ça va pas très loin, ça reste au niveau du discours. Mais il y a quand même quelques problèmes. ICN, autour de l'étiquette ICN, il y a eu des projets réels, au sens où il y a des papiers qui ont été publiés.
Oui, enfin, un papier, ça ne vaut pas grand-chose.
Dans le cas d'ICN, il y a une erreur fondamentale, qui est que l'idée, c'est de concevoir le réseau comme exclusivement un moyen d'accéder à l'information. C'est-à-dire, en gros, comme un Minitel géant. Donc, dans ICN, c'est pas les machines qui ont une adresse, c'est les contenus. Un fichier MP3, un truc comme ça, une adresse. Et le réseau, c'est permettre l'accès à ce contenu avec des techniques comme des caches réparties automatiques, des trucs comme ça. Et alors, le gros inconvénient de cette approche, alors c'est très joli, ça permet sur les papiers de faire des trucs extraordinaires, ça permet de faire des promesses. J'ai un document d'ICN où il promettait que ça serait vert. Ça consommerait moins d'énergie. Il disait pas comment. C'est une promesse qui aujourd'hui a du poids, surtout quand on veut avoir des subventions. Mais l'inconvénient surtout de cette approche, c'est qu'elle réduit, elle comprend pas que la caractéristique principale d'Internet, c'est justement que c'est une infrastructure sur laquelle on peut faire plein de choses différentes. Donc, à partir du moment où on considère que c'est uniquement un moyen d'accéder au contenu, problème et on peut faire des trucs intéressants, mais en même temps, on restreint considérablement le réseau. Ce qu'on fait là en ce moment, une conférence à plusieurs via Internet, comment on fait rentrer ça dans le modèle de l'accès au contenu, ça va être dur.
Mais de toute façon, on est d'accord que tous ces gens qui proposent des choses n'ont aucun moyen pour les implémenter. C'est-à-dire que derrière, il faut que les équipementiers réseau, les fabricants de logiciels, de systèmes d'exploitation, les fournisseurs d'accès, etc., se mettent tous d'accord pour mettre en place, s'il y a un changement radical, hein, s'il y a vraiment un changement de paradigme, il faut que tous ces gens-là se mettent d'accord pour l'implémenter.
Oui, ça dépend à quel niveau on se place. Ça dépend si on se place au niveau de la recherche fondamentale, au niveau de l'ingénierie. Les deux sont deux activités tout à fait honorables, et les deux sont des activités indispensables, mais elles ont des modes de fonctionnement très différents. Notamment quand on fait de la recherche fondamentale, justement, on ne se demande pas comment on va le déployer, enfin, on se demande pas si Cisco ou Juniper seront d'accord, on cherche des trucs radicalement nouveaux. Mais la recherche fondamentale, comme souvent, elle ne débouche pas, puisque par définition, on recherche des trucs dont on n'est pas sûr que ça marche, qui sont tellement nouveaux qu'on n'est pas sûr que ça marche. Donc elle a moins de prestige social et elle suscite moins l'intérêt des ministres ou de certains organismes de financement. À l'inverse, l'ingénierie, elle peut faire des promesses à court terme. On va faire un réseau qui va aller plus vite, va consommer moins de courant, va être plus sécurisé. Mais par contre, effectivement, elle oblige à se poser des questions comme le déploiement à partir de l'existant. J'ai de la sympathie pour les deux activités, les deux sont indispensables, mais c'est vrai que très souvent les gens qui proposent de faire table rase, les raseurs de table, très souvent ils confondent les deux activités. Ils réclament la liberté qui est celle du chercheur en recherche fondamentale, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de te dire qu'on est existant, je peux partir de zéro et faire un truc beau. Ils réclament cette liberté-là tout en ayant l'argent et le prestige social qui va avec les réalisations concrètes, qui influent vraiment sur la vie des gens. Donc en fait, les deux activités sont honorables, mais elles sont différentes et il faut choisir. Et ça, beaucoup de raseurs de table ont du mal à choisir.
Et concrètement, comment ça pourrait marcher? Parce que, je veux dire, les problèmes de l'Internet, ils sont multiples et nombreux. Enfin, tu as parlé de l'anonymat, etc. Mais si on prend des trucs totalement à la con avec les histoires de, par exemple, de MTU ou de choses comme ça, en fait, tu sais, y a des gens qui disaient que sur Ethernet, il faudrait multiplier par 100 la taille du datagramme pour que ce soit efficace avec les fréquences de transmission qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que même au niveau électronique, il faut redéfinir des protocoles, recâbler.
Oui, si on veut faire ça, oui. Alors pour le cas de l'MTU, c'est effectivement une plaie de l'Internet. C'est un exemple de l'ossification, c'est-à-dire du fait qu'il y a des changements qui sont maintenant à peu près impossibles à faire.
Mais donc ces gens qui proposent de tout raser, ils proposent de changer. Enfin, comment ils adressent le problème de l'MTU? Ils considèrent qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent ou ils considèrent qu'ils partent avec l'MTU existante?
Donc oui, je dirais que la MTU, c'est un exemple typique de l'ossification de l'Internet, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire des changements, d'autant plus que chaque changement en entraîne un autre. Hein. Il y a le problème des buffers, des switches pour prendre des paquets plus grands, il y a aussi le problème de la somme de contrôle d'Ethernet qui est assez médiocre et qui ne marche pas pour des paquets de trop grande taille. En fait, il y aurait plus le paquet est de grande taille, plus il y a de risques que plusieurs erreurs s'annulent. La CRC d'Ethernet ne garantit pas que deux changements de bits, par exemple, vont invalider la checksum. Donc, si on a des paquets très grands, à la limite, il y aura toujours une checksum correcte, parce qu'il y aura toujours plusieurs changements qui s'annuleront. Donc, c'est aussi un des facteurs qui limite. Et effectivement, il faudrait changer toutes les cartes Ethernet du monde. On voit bien le problème que ça pose. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de problèmes différents. Et c'est vrai que souvent, les gens qui tiennent les discours de refaire Internet en partant de zéro ne précisent pas clairement s'ils parlent de la couche 1, de la couche 2, de la couche 3, d'une autre couche. C'est souvent très mélangé, il y a souvent beaucoup de choses différentes. L'autre jour, il y en avait un sur Twitter qui disait que de toute façon, on aurait dû garder ATM, c'était parce qu'on avait abandonné ATM que tout était fichu. Bon, il y a effectivement l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, l'Internet, c'est quelque chose de très complexe et qu'on ne peut pas tout remplacer On peut en remplacer certains bouts, mais pas d'autres. De ce point de vue-là, c'est plus de l'urbanisme que de l'architecture. C'est-à-dire que quand on a une ville et qu'on essaie de la modifier, on peut pas, d'abord, on peut pas la raser pour repartir de zéro. Ensuite, on ne peut pas changer toutes les pièces en même temps, alors que toutes les pièces sont interconnectées. Par exemple, si on change le réseau des routes, ben, il faut aussi changer les égouts qui passent en dessous et tous les autres câbles. Un changement va en affecter un autre, et donc ça rend toute évolution effectivement difficile. L'Internet en est là pour l'instant.
Stéphane, sur la partie abandon de l'ATM, c'est un truc que je trouve assez intéressant, puisque finalement l'ATM, avec la, qui principalement pour moi intégrait une notion de qualité de service qui a complètement été abandonnée sur IP derrière, et pour moi, c'est révélateur de cette transformation vers un réseau où bah, Internet, ça fonctionne. Ça va vite à déployer, c'est efficace et on est prêt à perdre pas mal de fonctionnalités qui sont pourtant essentielles dès qu'on va assurer de la qualité aux utilisateurs ou même de la sécurité, de manière à pouvoir aller vite, à réduire les coûts et à ce que ça se passe bien. Est-ce que tu as ressenti une évolution à ce niveau-là sur bah, la manière dont évoluent les protocoles? On devient plus sérieux, quoi, en étant.
Je crois surtout qu'on comprend, on trie un peu dans les propositions. La qualité de service, c'est un bon exemple. C'est une idée de bon sens. C'est-à-dire, c'est évident qu'il y a des applications qui ont besoin de certaines garanties. Donc, c'est évident qu'il faut que le réseau gère ça. Mais en fait, l'expérience prouve que non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que ça coûte horriblement cher. Ça ne se propage pas facilement. Dans un réseau où il n'y a qu'un seul opérateur, on peut donner la qualité de service à celui qui a payé. Mais dans un réseau multi-opérateur comme l'Internet, quand un appel téléphonique, par exemple, sort du réseau de Free pour aller dans celui d'Orange, bah, le Free aurait tout intérêt à demander la qualité de service maximum, sauf s'il y avait un mécanisme de refacturation. Enfin, on en vient très vite à des usines à gaz complètement dingues, alors que c'est bien plus simple de faire simplement un réseau le plus rapide possible. Donc la qualité de service, je pense, c'est un parfait exemple d'un truc où depuis 30 ans, tout un tas d'experts répètent qu'elle est absolument indispensable. La réalité montre exactement le contraire, mais c'est pas ça qui va arrêter les experts. Hein. Les experts, ils vont pas se laisser arrêter par des choses aussi bêtes que la réalité. Et donc on continue à répéter qu'il en faudrait, alors que c'est non, c'est pas du tout évident. Alors, la sécurité est un autre aspect parce que c'est compliqué. C'est un domaine, la sécurité, où tout le monde peut constater que ajouter les sécurités a posteriori à un système qui n'était pas prévu pour ça, c'est très compliqué et ça marche pas très bien. D'un autre côté, quand on met de la sécurité dès le début, ben, le protocole ne marche pas parce que il y a une compétition darwinienne aussi entre les protocoles, et qui est que quand quelque chose est sécurisé mais compliqué à utiliser, pénible, les gens ne s'en servent pas. Un exemple typique, c'est entre X400 et le courrier électronique. Les gens d'X400 promettaient des choses extraordinaires, notamment en matière de sécurité, d'authentification, mais le résultat, c'est qu'X400 était tellement pénible à utiliser que même eux, même ses promoteurs, ne s'en servaient pas. Donc la sécurité, c'est comme tout, il y a une limite. Si elle empêche d'utiliser le service, elle est rejetée. Donc il n'est pas du tout évident que, on entend souvent dire que Internet n'a pas de sécurité parce qu'il a été conçu par des hippies universitaires naïfs qui croyaient que le monde était gentil. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, donc on ferait un Internet beaucoup plus durci. Mais en fait, si on avait fait ça en 69, 74, 84, l'Internet n'aurait jamais eu aucun succès. Il aurait été impossible à utiliser, les gens s'en seraient pas servis du tout. Donc d'abord, il faut remettre en cause certains trucs qui sont répétés tout le temps. La qualité de service, c'est pas parce que tout le monde répète qu'elle est indispensable, qu'elle est vraiment indispensable, c'est même le contraire. Et la sécurité, c'est un aspect difficile parce que les gens ne veulent pas de la sécurité, ils veulent accomplir une certaine tâche. Alors si on peut pas l'accomplir à cause de problèmes de sécurité, ok, ils sont prêts dans ce cas-là à ce qu'on déploie des mesures de sécurité, mais si c'est la sécurité elle-même qui les embête, à ce moment-là, ils vont la sacrifier. Et c'est une attitude raisonnable. L'histoire, il y a un très bon document sur le succès ou l'absence de succès des protocoles, c'est le RFC 5218, What Makes a Successful Protocol, qui étudie un grand nombre de protocoles conçus à l'IETF, dont certains ont été des succès formidables, comme HTTP, d'autres ont été des échecs ou des demi-échecs. On a cité IPv6 tout à l'heure, et qui étudie les raisons. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les protocoles qui ont un succès posent des problèmes de sécurité, parce que s'ils ont un succès, ils deviennent une cible tentante pour les méchants, donc des tas de méchants essayent de les exploiter. D'un autre côté, s'ils ont eu de la sécurité dès le début, ben, ils n'ont jamais été déployés. Parce que trop pénible, trop embêtant, trop galère... Et donc le mythe du réseau qu'on ferait en partant de zéro et que cette fois serait sécurisé, j'ai des doutes sérieux.
Et ici, là, pragmatiquement, on commence par quoi demain s'il fallait s'y mettre ? DNSSEC ? Autre chose ? Par quoi on commence ? Voilà.
Oui, j'aurais tendance à dire que tout est prioritaire, parce que moi je trouve que DNSSEC c'est très bien, parce que personnellement je travaille dans le champ du DNS, donc pour mon petit domaine étroit, c'est ça qui est le plus important en ce moment du point de vue sécurité. Mais si on prend en compte l'ensemble de l'Internet, moi j'aurais tendance à dire que quand même un des gros problèmes, c'est plutôt dans les systèmes d'exploitation où on manque complètement de briques sur lesquelles bâtir de la sécurité. C'est-à-dire, c'est pas normal. Quand je regarde un site, une vidéo porno sur un site russe, qu'il puisse faire des trucs comme faire un pop-up géant qui occupe tout l'écran, c'est déjà embêtant, mais qu'il puisse me voler mes bitcoins, ça c'est pas normal. On manque de cloisonnement, on manque de. Si je fais des bêtises avec ma, si je perds le mot de passe, ou si je confie à quelqu'un d'autre le mot de passe qui protège mon portefeuille de Bitcoin, je perds mes Bitcoins, c'est normal, c'est lié. Mais par contre, quand je regarde un site web avec mon navigateur, que par une succession d'événements, une exploitation d'une faille avec drive-by, download, le malware qui prend le contrôle de la machine, il passe administrateur, il pique mon portefeuille de Bitcoin et j'ai plus rien, ça c'est pas normal que ce genre de chaîne soit possible. Donc il y a quand même un gros problème logiciel dans les systèmes d'exploitation, c'est cette absence de cloisonnement qui fait que les problèmes ne sont pas limités. Une bonne partie de la sécurité dans le monde réel, c'est cette histoire de limitation, c'est-à-dire que si je laisse les clés à la femme de ménage, elle peut physiquement, si elle est malhonnête, voler les bijoux qui sont dans le tiroir, mais elle peut pas vider mon compte en banque, par exemple. Avec l'informatique, sur un système d'exploitation typique, au contraire, c'est tout ou rien. Et ça, c'est quand même une bonne partie des problèmes qu'on a sur l'Internet.
Ouais, dans le cas des bitcoins et du site porno, le problème, c'est que le site porno, il te demande peut-être de payer... pour accéder à des parties privatives et qu'à ce moment-là, tu vas payer avec tes bitcoins. Et donc, du coup, tu as quand même besoin d'une connexion entre les deux, quoi.
Alors oui, c'est pour ça que l'expérience de système d'exploitation partitionné comme Cube ou Clip ou des trucs comme ça montre que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai l'impression que tant qu'on ne sera pas allé dans ce sens-là, on aura des problèmes. Et en fait, je cite aussi cet exemple parce que ça, quand certaines personnes disent que les problèmes qu'on a sur Internet, par exemple les botnets et les attaques DDoS, c'est lié à des caractéristiques propres d'Internet, c'est aussi en bonne partie lié à des caractéristiques des systèmes d'exploitation, et on pourrait changer le protocole Internet par un autre, ça ne résoudrait pas ce problème. Le problème est aussi aux extrémités du réseau.
Des problèmes principaux, c'est le mot de passe, par exemple. Tant que tout est basé sur la connaissance d'un mot de passe, tu as beau changer les protocoles comme tu veux, ça ouvre la voie à pas mal d'attaques.
Oui, et c'est pour ça que pas mal de problèmes ne sont pas des problèmes Internet. Alors maintenant, pour ceux qui sont spécifiquement des problèmes Internet, je pense qu'il c'est important aussi de travailler sur l'infrastructure, parce qu'évidemment, quand l'infrastructure déconne, ben, il n'y a plus rien d'autre. Le DNS, on va parler avec DNSSEC, BGP, il y a du travail aussi, mais BGP est un parfait exemple des difficultés qu'il y a à sécuriser. C'est-à-dire que, en gros, actuellement, le problème de fond de BGP, c'est que n'importe quel routeur peut annoncer une route pour n'importe quoi. Ça lui prend comme ça. Tiens, je vais annoncer les routes de Google et dire pour aller chez Google, passer par moi, et ça passe. Pour que ça ne passe pas, il faudrait que les autres routeurs connaissent qui peut légitimement annoncer les routes de Google? Alors déjà, on a un premier problème, c'est qu'un protocole de routage comme BGP est conçu pour distribuer l'information sur qui fait quoi. Si on veut pouvoir accepter ou refuser cette information, il faut donc avoir un autre protocole à côté qui distribue l'information, et à ce moment, on se demande à quoi servait le premier. Et ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est qui va être légitime pour dire quelles sont les vraies adresses IP de Google ou pas. Bon, dans le cas de Google, c'est pas un très bon exemple parce que, à la limite, on peut dire que Google, tout le monde connaît et pourrait mettre les routes en dur quelque part dans sa configuration. Mais pour tous les autres réseaux de l'Internet, on peut pas faire ça. Donc, imaginons qu'on puisse refaire BGP en partant de zéro, avec ce qu'on sait. Comment on résoudrait ce problème fondamental? C'est un problème que n'ont pas les télécoms traditionnels, parce que les télécoms traditionnels, il y a un tout petit nombre d'acteurs, avec un petit nombre d'interconnexions bien définies. Internet, son succès vient du fait que des tas de gens peuvent se connecter, mais c'est aussi ça qui le rend difficile à gérer. Donc j'insiste bien sur le point que on peut faire un réseau différent d'Internet et peut-être mieux sécurisé, mais on va perdre certaines des propriétés qui ont fait justement le succès d'Internet.
C'est clair qu'aussi avec les NICAST, les Content Distribution Network, etc., quand tu veux récupérer une information, tu n'as pas forcément moyen de savoir où tu dois aller la chercher, quoi. Quand il y avait eu la faille la SSL récente, en gros, les gens disaient qu'il y avait 30% du trafic Internet qui passait par Akamai maintenant, qui est un CDN. Enfin, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais c'est quand même assez
délicat. L'ordre de grandeur est exact, oui. Et une bonne partie des autres passe par Cloudflare. Donc, on a un problème là qui... Alors, c'est un autre problème, effectivement, dont on n'a pas parlé, l'excessive centralisation vers un petit nombre d'acteurs. Mais là encore, c'est pas à voir avec les protocoles, c'est les jeux des forces du marché, c'est des décisions économiques, c'est une absence de prise de conscience par des gens du danger. Par exemple, des gens continuent à se précipiter vers Cloudflare, qui a déjà une part de marché énorme, trop importante sans doute, mais ils continuent à avoir des nouveaux clients régulièrement parce que chacun prend une décision qui individuellement est bonne pour lui, puisque Cloudflare c'est bien et ça marche, mais qui est collectivement mauvaise parce qu'elle diminue la diversité. Ça, c'est des problèmes qui sont vraiment pas des problèmes informatiques, c'est des problèmes qu'on rencontre plutôt dans des domaines comme l'économie, comme l'écologie. Dans l'économie ou l'écologie, c'est très fréquent qu'il y ait des gens qui prennent des décisions qui sont rationnelles pour eux, mais si tout le monde fait pareil, c'est une catastrophe collective. Et on n'a pas de moyens vraiment pratiques de régler ça. Pour reprendre l'exemple de BGP, là on voit qu'avec le non-déploiement d'IPv6, il y a une pression de plus en plus forte sur la table de routage, les gens annoncent des préfixes IPv4 de plus en plus spécifiques, et donc on a ce paradoxe qu'alors que les adresses IPv4 sont épuisées depuis des années, la taille de la table de routage BGP en IPv4 continue à croître.
On va faire combien, Stéphane, maintenant ?
530 000 routes, quelque chose comme ça.
Ah oui, ouais, en fait, juste pour donner une idée, j'ai fait du BGP en 2002, j'étais à 45.
Oui. Oui. Et puis le nombre de routes lui-même est, bon, est peut-être pas très impressionnant, parce qu'une table de 530 000 entrées à l'ère du big data, ça a l'air de rien. Mais c'est plus il y a de routes, surtout plus il y a de changements. Et c'est ça surtout qui tue les routeurs, c'est le rythme avec lequel il faut faire des changements. Et donc là, pourquoi c'est comme ça? Chacun prend une décision qui est rationnelle pour lui, notamment en annonçant des préfixes plus spécifiques, on se protège un peu contre un éventuel détournement BGP, c'est-à-dire que si les Chinois ou les Pakistanais annoncent le préfixe, si on a un truc plus spécifique, on gagnera. Donc chacun prend une décision qui, de son point de vue, est rationnelle, mais qui se traduit par un coût plus élevé pour tout le monde. Et là encore, les gens qui proposent de refaire un Internet mieux, différemment, en partant de zéro, ils n'expliquent pas comment ils traiteront ces problèmes qui sont 5% techniques et 95% business.
Donc, on est en train de nous dire que finalement, le problème d'Internet, c'est que le changement, c'est tout le temps.
C'est que le... Pardon.
Le changement, c'est tout le temps.
Oui. Tout à fait. Dans le domaine de BGP, c'est clairement vrai. Enfin, il y a à la fois une inertie colossale, comme le fait qu'on a toujours IPv4 et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, et en même temps, des changements très rapides tout le temps pour beaucoup de choses sur... par exemple, on parlait d'augmentation du trafic BGP, pour DNS c'est le cas aussi, hein. Aujourd'hui on regarde la page d'accueil de CNN, ça fait une centaine de requêtes DNS. Au début du web c'était une requête DNS par page, maintenant on en est à une centaine, je pense qu'au rythme où ça va, on aura des milliers ou des dizaines de milliers, de plus en plus de choses passent par le DNS. Donc on imagine la charge que ça représente pour les serveurs.
Mais, alors, pour reprendre l'exemple de la métaphore de l'urbanisme, enfin, quand ta ville est vraiment trop ingérable, tu fais une ville nouvelle. Donc, ça en est où les histoires de Internet 2, d'IPv9 en Chine, etc. C'est des trucs qui existent ou c'est resté dans les cartons?
Internet 2, ça désigne le réseau national de l'enseignement et de la recherche aux États-Unis, l'équivalent de ce qui est Redater en France ou Géant au niveau européen. C'est pas un deuxième Internet et c'est pas une version 2. Hein. C'est un terme purement marketing, parce que pour c'était un gros projet qui nécessitait beaucoup d'argent, et puis aux États-Unis, c'est jamais facile de faire des projets publics et collectifs. Donc le terme Internet 2 avait été inventé en laissant miroiter aux décideurs que ça serait différent de l'actuel. Mais en fait, c'est de l'Internet tout à fait normal et tout à fait classique, hein. Il n'a rien de version 2. Quant à IPv9 en Chine, c'est du pur baratin. Alors la Chine a une particularité intéressante, c'est que comme personne ne parle chinois à part les Chinois, on peut en revenir en racontant ce qu'on veut. On peut dire en Chine il y a ça, en Chine ils font ça, mais la réalité est en général beaucoup plus prosaïque. Les Chinois utilisent les mêmes techniques que nous, ils ont plus d'IPv6 que d'IPv4, ils ont un système de censure bien plus perfectionné, malgré les efforts de Valls et Cazeneuve pour le rattraper. Mais autrement, ils n'utilisent pas des technologies radicalement différentes, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin de se connecter au reste du monde. L'économie. La prospérité de la Chine en dépend. Donc, cette histoire d'IPv9 est complètement bidon. Je suggère à tout le monde de faire une expérience, comme d'autres trucs qu'on raconte sur la Chine. Hein. On raconte qu'ils utilisent une autre racine DNS, c'est du n'importe quoi encore. L'expérience est facile à faire. Hein. La Chine, c'est pas la Corée du Nord. On peut y aller. On peut y aller, on y va avec son ordinateur portable. On a beaucoup moins de chances d'être fouillé à la douane que quand on va aux États-Unis. On y va avec son ordinateur portable, on le branche dans un cybercafé, on le branche à l'hôtel et on regarde et on voit bien qu'ils utilisent le même Internet que nous. Ah, il y a la censure, il y a des phénomènes comme ça. Mais techniquement, c'est les mêmes techniques que nous.
Mais là, pour le coup, il y a un vrai problème d'adresse IP, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, si chaque
Ils
client.
ont plus, ils utilisent plus IPv6 que nous, et pour IPv4, ils utilisent des systèmes de NAT sur le NAT sur le NAT, c'est-à-dire à deux, parfois à trois niveaux de NAT. Alors c'est terrible, c'est fragile, c'est impossible à déboguer, mais ça fonctionne. Et ça correspond bien aussi à une certaine vision de l'Internet où on est obligé de passer par les routeurs de l'opérateur pour tout. Et donc l'opérateur a un contrôle plus strict de ce qu'on peut faire. Ça ne déplaît pas aux opérateurs, ça. Et ça ne déplaît pas non plus au gouvernement chinois. Mais ils ont aussi, par ailleurs, beaucoup d'IPv6. Leur réseau national de la recherche utilise IPv6 à fond et marche très bien. De la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais oui, le système après est hallucinant. Hein. C'est sûr que faire trois niveaux de NAT plutôt que de déployer IPv6, je trouve ça du point de vue technique irrationnel. Mais c'est un peu aussi ce que je disais sur la ville. Hein. L'Internet n'a pas été est un organisme qui évolue en permanence. C'est pas une création d'un savant fou dans son garage qui a fait les plans complets, qui a tout décidé. Faut plutôt aborder l'Internet avec des outils issus des sciences sociales ou de l'urbanisme ou des choses comme ça, plutôt que de la technique traditionnelle. Puisque c'est un monde compliqué qui évolue tout le temps et où il n'y a pas une autorité qui pourrait le changer. La dernière fois qu'il y a eu tiens, un petit sondage, quelle était la dernière fois où il y a eu un flag day sur l'Internet, c'est-à-dire un jour où on dit tel jour, telle heure, on fait telle opération technique et tout l'Internet le fait en même temps. C'était quand la dernière fois que ça s'est produit?
Aucune idée.
C'était le 1er janvier 1983 et c'était le déploiement définitif d'IPv4. C'est-à-dire c'est le moment où tous les routeurs ont abandonné l'ancien protocole qui précédait IPv4. Donc 1983. Depuis aujourd'hui, évidemment, ça serait complètement inenvisageable de fixer une date. D'abord, qui pourrait fixer une telle date et ensuite de faire qu'elle soit respectée. Donc, d'où l'exemple de la ville, effectivement, et de l'urbanisme. Le coup de la ville nouvelle, on n'a pas toujours l'occasion de faire une ville nouvelle. Hein. Des fois, dans certains cas, un urbaniste a une chance inouïe, c'est qu'il y a un gouvernement, c'est souvent une dictature, d'ailleurs, pour pouvoir prendre des mesures pareilles, qui lui dit, bon, ben, on va faire une ville complètement nouvelle, à la campagne, en partant de zéro. Mais c'est rare qu'on ait cette occasion. La plupart du temps, on ne peut pas.
Bon, tu nous parles de l'Internet chinois, mais alors c'est quoi l'avenir de l'Internet européen? Ou français. Je sais pas si qui va gagner.
Je ne saurais pas dire, parce que je suis assez mauvais pour les pronostics, ce que j'observe, c'est les tendances, et les tendances vont pas. L'intérêt de l'Internet, c'est qu'il permet des choses. Il ne les fait pas lui-même, mais il permet des choses. Il permet de créer Google, il permet de créer le web, il permet de créer le pair à pair et d'échanger des œuvres culturelles en BitTorrent. Il permet aussi des choses désagréables. Donc il permet plein de choses et la tendance est plutôt d'en faire un réseau où les choses ne seront pas permises, mais où elles devront faire l'objet d'une autorisation, voire d'un paiement. C'est tous les débats autour de la neutralité du réseau, avec certains opérateurs qui disent ouvertement qu'ils voudraient pouvoir contrôler ce que leurs clients font sur le réseau ou pas, ce qui est la négation même du principe de l'Internet, et c'est aussi l'attitude du gouvernement, bon, puisqu'aujourd'hui a commencé l'examen du projet de loi renseignement, où il est prévu le projet de loi renseignement prévoit la surveillance du réseau, mais pour que la surveillance soit efficace, il faut aussi réarchitecturer le réseau pour la rendre plus facile, ce qu'ont fait les Chinois d'ailleurs justement, et je pense que pas mal de pays démocratiques sont prêts à suivre la même voie.
Oui, parce qu'en ce moment, ça bouge pas mal quand même, il y a eu les premiers filtrages DNS. Alors, en fait, le filtrage DNS se pratiquait déjà en France avec l'ARGEL, ce que les gens oublient, mais il y a eu les premiers filtrages soi-disant antiterroristes là, par DNS, il y a cette loi sur le renseignement, il y a les histoires de neutralité du net, où aux États-Unis, a priori, il y a quand même eu un executive order plutôt en faveur de la neutralité du net. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui sont en train de bouger maintenant.
L'ARGEL, c'est lié à la guerre froide et à Poutine ou...
La grosse différence avec ce qui se fait maintenant, c'est que dans le cas de l'ARGEL, c'était uniquement des décisions judiciaires et publiques. Donc on savait qu'est-ce qui était filtré, qu'est-ce qui n'était pas. Là, maintenant, on sait une liste établie uniquement par la police et qu'on ne connaît pas. Donc du point de vue citoyen, ça veut dire qu'on ne peut pas la vérifier. Du point de vue technique, ça veut dire aussi qu'elle n'est diffusée qu'à un petit nombre d'acteurs. Enfin, actuellement, au Pifomètre, il y a à peu près la moitié des gens connectés à Internet en France qui passent par un résolveur DNS qui applique les règles de censure administrative, notamment contre les sites djihadistes. Et l'autre moitié, non, et l'Internet étant trop éclaté, si on envoyait la liste réellement à tous les gérants de serveurs DNS, évidemment, la liste, elle ne resterait pas secrète longtemps, ça fait trop de monde. Donc, on n'en voit qu'un petit oligopole, enfin, les quelques grands habituels. Et tôt ou tard, il y aura quelqu'un au gouvernement qui se dira, mais donc c'est pas satisfaisant comme situation, pour qu'on puisse faire appliquer notre politique, il faudrait qu'il y ait, comme en Chine, un tout petit nombre d'acteurs à qui on puisse parler. Les gouvernements, ils sont à l'aise qu'en situation d'oligopole ou de monopole. Quand il y a énormément d'acteurs dispersés, ce qui est typiquement le cas de l'Internet traditionnel, les gouvernements, ils sont perdus. Ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à Sciences Po, ils savent pas faire. Donc, ce qu'ils cherchent en général, c'est à se retrouver à un cas où il y a un petit nombre d'acteurs. Par exemple les GAFA, tout le monde râle contre les GAFA, mais les gouvernements sont bien contents de les avoir, parce que c'est plus facile de parler à un petit nombre de gros acteurs qu'à plein de gens éclatés. Et pour la censure DNS, c'est la même chose aussi. Pourquoi est-ce que des petits opérateurs, pourquoi est-ce qu'au bureau, je peux voir toujours des sites djihadistes, s'il y a envie de me radicaliser au bureau, je peux, et s'il y a envie à la maison, je peux pas. Pourquoi? La seule raison, c'est parce que des opérateurs de résolveurs DNS au bureau, il y en a plein, et qu'on ne peut pas leur envoyer la liste à tous. Donc ça, tôt ou tard, quelqu'un au gouvernement réfléchira là-dessus et voudra effectivement changer l'architecture de l'Internet pour qu'on soit obligé de passer par des résolveurs officiels. Je ne dis pas que ça serait une bonne chose, bien au contraire, mais je pense que c'est une idée qui viendra dans les têtes des gouvernements rapidement. Et s'ils n'ont pas l'idée tout seuls, ils feront un voyage d'études en Chine et ils diront « Ah mais oui, c'est drôlement bien là ».
Oui, il y a d'autres trucs, là, dans l'actualité, c'est justement la libéralisation des top level domaines. Là, c'est vraiment la foire, tout le monde achète n'importe quoi. Et la Chine qui injectait du JavaScript pour faire du DDoS sur GitHub. Donc ça, typiquement, je pense que là-dessus, il y aura des choses à dire.
Oui, alors, bon, du point de vue, bon, puisqu'on parle surtout de sécurité ici, l'attaque contre GitHub a utilisé apparemment plusieurs techniques, mais celle qui a été documentée, analysée, c'est effectivement la modification des pages web en vol par des équipements réseau pour insérer un JavaScript qui fait que la machine de Monsieur Lee, parce qu'on va pas l'appeler Monsieur Michu quand même, donc la machine de Monsieur Lee, lui, il croit qu'il fait le surf normal et ordinaire, et en fait, sans s'en rendre compte, il participe à l'attaque contre GitHub. C'est une sorte de Loïc distribué, mais distribué chez des gens qui n'ont pas installé délibérément. Donc ça, c'est tout à fait diabolique. Ça, c'est très difficile à contrer, ce genre de choses. Là, effectivement, on peut se poser des questions sur l'architecture d'Internet, mais comment, c'est très difficile d'empêcher ça sans permettre des tas de choses rigolotes qui sont par ailleurs utiles et dont les gens se servent régulièrement. Donc là, l'attaque par la modification des pages Baidu, là, est vraiment diabolique parce que je ne vois pas de solution simple pour résoudre ce problème. Bon, sinon, le coût des domaines de tête, là, point pizza, point tout ça, c'est un peu anecdotique. Hein. Le DNS étant arborescent, une de ses particularités, c'est que ce que fait quelqu'un dans sa branche n'affecte absolument pas les autres. Il y a eu une panne du domaine national kenyan.ke il y a 2 jours. Bah, c'est très embêtant pour les Kenyans, pour ceux qui sont en affaire avec le Kenya, mais le reste du monde s'en fiche complètement. Le gérant de Point Pizza fait des bêtises, ça affectera que les domaines en Point Pizza. Donc, si on veut ignorer, si on pense par exemple que .com ou .fr ou Point Pizza c'est sans intérêt, ben on l'ignore et on peut très bien bosser comme ça. Ça, c'est l'avantage de la structure arborescente du DNS. Donc, si on n'aime pas les nouveaux domaines de tête, on les ignore, c'est tout. Ça ne pose pas de problème, par exemple, de sécurité ou d'architecture.
Il y avait une histoire de fork de la racine DNS dans un sommet pour l'information, un World Information Summit ou un truc comme ça, où les gens voulaient pouvoir avoir des extensions en farsi ou en cyrillique, et que pour faire ça, il fallait en gros ne plus passer par les serveurs racines, quoi.
Alors, il y a eu. Alors, effectivement, c'est souvent la même bande. Enfin, qui disent qu'il faudrait repartir de zéro. C'est vrai que c'est et refaire un partant de zéro. C'est vrai que c'est souvent les mêmes qui, entre autres, prônent des racines DNS alternatives. Alors, l'argument des langues. À une époque, le déploiement de TLD en alphabet non latin a connu pas mal de retard parce que l'ICANN traînait de manière tout à fait anormale. Quand on parle anglais, l'importance des alphabets non latins est moins évidente. Donc l'ICANN a traîné beaucoup, et donc ça a pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des tas de TLD en alphabet non latin. Qui marche très bien. Bon, il y a quelques petits problèmes techniques, mais ça se tasse, il y en a de moins en moins. Donc ce problème-là, maintenant, est un faux problème.
Pour revenir à ta présentation, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration technique ?
Alors, il y en a des axes d'amélioration technique. Le problème, bon, c'est effectivement qu'il faut convaincre les gens de les déployer, et d'autant plus que des fois, ils se traduisent par des inconvénients. Ben, on avait cité DNSSEC tout à l'heure, il n'y a pas de miracle. DNSSEC, et c'est plus compliqué d'avoir du DNS avec DNSSEC que d'avoir du DNS tout court. Il faut de la cryptographie, il faut des procédures un peu strictes, il faut resigner la zone régulièrement. Donc il faut un mécanisme qui la refasse automatiquement. Ça veut dire qu'il faut une supervision pour s'assurer que ce mécanisme fonctionne bien. Donc c'est plus compliqué, de la même façon que gérer un Airbus A380 aujourd'hui est plus compliqué que gérer un avion dans les années 30 où on démarrait depuis une piste en herbe et le mécano tournait l'hélice et vroom, et on partait directement comme ça. Aujourd'hui, faire décoller un avion, c'est une affaire beaucoup plus compliquée. Je pense que pour beaucoup de technologies, il y aura aussi cette montée en compétences et en complications qui sera nécessaire. Donc les technologie qu'on envisage pour la sécurité nécessite plus d'efforts. Ou un autre exemple qui est plus familier à beaucoup d'administrateurs système, c'est gérer un site HTTPS, c'est plus de travail que gérer un site HTTP. Faut des machines un peu plus rapides, faut gérer les clés privées, donc pas un peu de sécurité pour pas qu'elles se perdent, faut penser à renouveler les certificats, faut faire de la supervision, etc. Donc ça, c'est des pistes d'amélioration incrémentales, mais elles ne seront pas gratuites. Donc ça, c'est important de faire comprendre, par exemple, aux décideurs qu'il faudra dépenser plus en ressources humaines, puisqu'il faudra des gens plus compétents et qu'il faut des trucs plus compliqués. Ça, je pense que c'est à peu près inévitable. Après, il y a des pistes un peu plus disruptives. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu négatif en tapant sur les projets des raseurs de table qui veulent tout refaire et qui n'ont pas d'idée bien précise, mais il y a aussi des projets que je trouve très intéressants. Simplement, ça ne veut pas dire que je pense qu'ils seront déployés, mais je pense qu'ils explorent des pistes intéressantes. Un exemple typique, c'est GNU/NET, par exemple. GNU/NET, c'est un projet de recherche. Alors, c'est vraiment de recherche. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi personnellement, j'ai réussi à compiler le logiciel, à l'installer. J'ai pas encore réussi à le faire fonctionner, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour. Pour dire que c'est pas, ça ne se présente pas comme une solution là aujourd'hui pour Monsieur Michu. C'est un projet de recherche sur une nouvelle architecture de l'Internet et qui, contrairement justement au projet dont j'avais parlé au début, qui promettent le beurre et l'argent du beurre, GNU/NET a un cahier des charges clair, c'est-à-dire que l'important c'est la vie privée. Tout tourne autour de ça. Donc la vie privée et puis la totale décentrage, c'est-à-dire le fait que tout soit intégralement pair à pair. Pour prendre un exemple pour le fait de ne pas dépendre de ressources extérieures. Pour le nommage des machines dans GNU/NET, il y a deux solutions. Une solution où les noms ne sont pas uniques, c'est-à-dire que chaque machine nomme les machines autour d'elle. Par exemple, Alice, il y a une machine qui s'appelle Alice, mettons, elle va envoyer un fichier à une machine qui s'appelle Bob. Alice nomme la machine Bob, et donc son adresse et tout ça, et peut lui parler, mais seule Alice pourra le faire, d'autres personnes ne connaîtront pas le Bob en question. Et même d'autres personnes auront aussi un Bob à eux qui sera différent. Donc quand on veut parler à son cercle d'amis proches, c'est facile. Quand on veut parler plus loin, GNU/NET permet de mettre des chemins. Donc le Charlie qui est le copain de Didier, qui est le copain de Bob, ce genre de choses. Ça permet... Donc ça, on a des noms comme ça qui sont jolis, qui sont complètement locaux, c'est-à-dire on ne dépend d'aucune autre, on ne dépend pas d'un registre, on ne dépend pas de l'ICANN, mais qui sont pas uniques. Donc qui ne sont pas pratiques pour des choses du genre pour écouter le podcast Nos Limites Sécu, aller à tel endroit par exemple. Parce que là, il faut un nom unique dans ce cas-là, pour qu'on puisse le diffuser un peu partout sur les réseaux. Et GNU/NET permet aussi d'avoir des noms uniques, mais dans ce cas-là, ces noms uniques pour pouvoir être gérés sans avoir un organisme à registre, qui les note, ces noms uniques sont des clés cryptographiques. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont uniques, enfin quasi uniques, hein, ils sont tirés au sort, mais l'espace est tellement grand qu'ils sont quasi uniques. Par contre, du point de vue convivialité, maniabilité, c'est pas vraiment ça. Mais ce que j'apprécie dans GNU/NET, c'est que il y a des choix bien précis et bien documenté, donc notamment en vie privée et pair à pair, et que les auteurs suivent leur choix. Alors on peut après imaginer toutes les difficultés que ça posera, ce genre de système, mais au moins il y a un cahier des charges clair qui a été mis sur la table dès le début. C'est pour ça que je pense que c'est un projet intéressant et qui traite bien les choses. Parce que on parlait de racines alternatives tout à l'heure, le monde des racines alternatives, c'est typiquement l'opposé, c'est-à-dire c'est les gens... c'est un monde de... faudrait que je trouve un mot où mon avocat va pas me gronder après en disant que je prends des risques, un monde de gens peu sérieux, on va dire, qui est pas toujours très scrupuleux, puisqu'ils promettent tout le contraire. Par exemple, ils promettent que chacun pourra prendre un TLD comme il veut, mais que par une sorte de miracle, il y aura jamais de collision. Actuellement, dans les ensembles des racines alternatives que je connais, il y en a au moins trois qui ont un point home. Ou un point MP3. Donc ça, dans GNU/NET, ce genre de choses est normal et est assumé. Chacun nomme localement. Par contre, dans les racines alternatives, ils prétendent à la fois qu'on aurait le beurre, c'est-à-dire qu'on peut choisir un nom comme on veut, et l'argent du beurre, c'est-à-dire que par miracle, ces noms seraient uniques. Et ça, c'est pas possible, ça marche pas. Là, on essaye de tromper les gens. On essaye de faire un truc qui est l'équivalent de vendre le mouvement perpétuel. Donc ce que j'apprécie dans les projets comme GNU/NET, c'est au contraire cette franchise et le fait que ben, on on part vraiment de zéro et on reconnaît les difficultés et les problèmes. Mais donc le résultat, c'est que c'est de la recherche fondamentale. C'est très loin de pouvoir être déployé. Les problèmes sont pas bien compris. Si on prend un projet qui est beaucoup moins disruptif que GNU/Net, Lisp, pas le langage de programmation, mais le protocole réseau, qui est porté notamment par les gens de Facebook et de Cisco, c'est un système qui est très astucieux, puisque l'idée de actuellement dans les adresses IP, elles ont une double nature. C'est un identificateur de la machine, et donc ça sert notamment pour maintenir les connexions, pour identifier les connexions TCP, et c'est un localisateur, ce qui dépend du point d'attachement. Ça a des conséquences pratiques, c'est que quand on change d'adresse IP, les sessions TCP cassent. Je suis chez moi avec mon portable connecté à Free, j'ai une adresse IP, je fais une session SSH, ensuite je le quitte avec mon portable et je vais dehors où j'ai une clé 3G Orange, j'ai une autre adresse IP, la session SSH casse. C'est pas satisfaisant.
Ouais, il faut utiliser Moche.
Voilà, alors dans le cas de SSH, il y a une bonne solution, c'est utiliser Moche, mais il serait intéressant d'avoir une solution qui soit au niveau de la couche 3, qui fait que ça marche automatiquement pour tous les protocoles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation identificateur-localisateur, c'est-à-dire de remplacer l'actuelle adresse IP par un identificateur qui est stable lié à la machine et un localisateur qui, lui, change et avec une fonction de binding entre les deux. Lisp a ce système-là. Dans le cas de Lisp, la séparation se fait dans les routeurs. C'est-à-dire que les machines gardent leur adresse IP, qui est en fait un localisateur, mais elles ne le savent pas. Et c'est les routeurs qui font de la traduction. Donc Lisp est une solution très astucieuse, mais en mettant cette indirection entre l'identificateur et le localisateur, on introduit donc une indirection, un nouveau binding et des nouvelles possibilités de problèmes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si une machine ment sur son identificateur, ment sur son localisateur, ou que la fonction de binding est subvertie, des choses comme ça. Dans le projet Lisp qui est pas mal avancé, il y a des RFC, il y a du code qui tourne, Facebook est accessible avec le protocole Lisp, donc on peut le tester. Mais par contre, l'analyse sécurité, pour l'instant, est très faible. Il y a un document futur RFC sur les menaces sur Lisp et les solutions possibles qui est toujours pas terminé. Et puis, de toute façon, il n'y a encore eu aucune vraie attaque par des vrais attaquants, c'est-à-dire pas juste par des chercheurs, contre Lisp. Donc, en fait, un des gros points noirs, c'est qu'on ne sait pas du tout si un tel protocole peut marcher dans un monde où il y a des attaques par des services, où les gens trichent surtout, ce genre de choses. Donc ça illustre un peu le problème. C'est très bien que les gens fassent des recherches, fassent des travaux, mais ça ne traite pas. Il y a des tas de problèmes qui ne sont encore pas traités.
Et ton histoire de Lisp, ça me rappelle complètement mobile IPv6.
Oui, c'est vrai qu'une bonne partie des motivations, c'est les mêmes, c'est-à-dire gérer la mobilité. Mais Lisp, il y en a une autre, c'est de gérer plus facilement le multi-homing. C'est-à-dire qu'actuellement, si on est quelqu'un par exemple qui travaille chez lui et qui veut pas avoir un FAI pour des raisons notamment de fiabilité, il prend deux abonnements à DSL ou un ADSL et à fibre. À ce moment-là, il se retrouve multi-homé, mais il est trop petit pour pouvoir faire du BGP. Il peut pas avoir d'adresse IP à lui, il peut pas faire de BGP. Et actuellement, c'est très galère parce qu'en fait, il va avoir deux adresses IP de chaque fournisseur et pas de moyen facile de jongler avec les deux, d'utiliser l'une puis l'autre, etc. Donc les protocoles comme Lisp ou les autres protocoles de séparation identificateur-localisateur pourraient résoudre ça. Donc c'est un problème qui en fait effectivement est très proche de celui de la mobilité. Et ça pose les mêmes problèmes de sécurité effectivement.
Mmh. Et donc en conclusion?
En conclusion, moi je pense que la recherche fondamentale doit se poursuivre, donc des projets comme Lisp, IP ou ILNP sont très prometteurs et c'est eux qui devraient être encouragés et financés, parce que là il y a des vrais gens qui travaillent vraiment et qui ont écrit du vrai code, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire ping, trace route et tout ça. Les projets comme GNU/Net, pareil, ou dans un autre genre, Namecoin par exemple, donc ça c'est très bien qu'il y ait ça, mais par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que, à côté de ces projets de recherche fondamentale, ou de recherche appliquée, il y a tout un tas de gens qui promettent mon émerveille, qui laissent entendre que si on les écoute, on réussit à quelque chose. Sur le bureau de quelqu'un qui travaille au CNRS ou à l'ANR ou au ministère, il y a tous les jours s'entassent des propositions plus ou moins géniales de gens qui prétendent qu'ils vont résoudre tous les problèmes et qui ne les décrivent pas clairement, qui ne disent pas clairement en quoi ça va s'agir et qui ne veulent pas être francs sur le cahier des charges qu'ils vont utiliser. Donc, ces gens-là, je n'ai pas envie qu'on leur donne le moindre centime de subvention. Et quelles sont les chances que les projets un peu disruptifs comme ceux dont j'ai parlé des bouches, ben malheureusement, là, je suis un peu pessimiste. Je trouve que quand je vois déjà le mal qu'on a déployé IPv6, qui est juste une version un peu différente, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire évoluer Internet correctement. C'est bien dommage, mais disons que je suis un optimiste quand il s'agit d'agir, mais quand il s'agit de faire des pronostics, je suis plutôt pessimiste.
Est-ce que tu ne crois pas que tout pourrait être résolu en appliquant la RFC 3514 ?
Alors le RFC 3514, en fait, donc c'est celui qui dit que l'attaquant doit mettre un bit particulier dans l'entête IP à 1 pour qu'on sache tout de suite, pour qu'on puisse classifier les paquets, qu'on puisse jeter les mauvais ou pas. Le gros problème, c'est que c'est un peu un problème du même genre que celui de la qualité de service. Hein. Si on permet aux gens de marquer les paquets pour indiquer la qualité de service, ils vont tous demander la qualité de service maximum. Tant qu'il n'y a pas un système tiers de surveillance, d'authentification, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui... en fait, pour que 3514 marcherait, il faudrait que l'entête des paquets soit signée et signée par une autorité que tout le monde reconnaisse. Et à ce moment-là, on pourrait faire, si on fait confiance à cette autorité, on pourrait faire confiance au Evilbit.
Mais finalement, c'est faire confiance aux attaquants.
Non, pas forcément. Si on décide, on peut faire une légère modification du RFC 3514, qui est de dire que l'entête IP doit être signée par une autorité que tout le monde reconnaît. Et dans ce cas-là, c'est cette autorité qui décidera si le paquet mérite le Evilbit ou pas. Mais on ne fait que déplacer le problème, parce qu'il n'existe pas une telle autorité à qui tout le monde ferait confiance, et puis ça serait de toute façon un boulot colossal. Donc, non, on ne peut pas savoir, malheureusement, on n'a pas de moyen facile de faire une classification entre bon et gentil. C'est le même problème qu'il y a celui qu'il y a dans le monde physique, hein, mais aggravé par le fait que dans le numérique, il n'y a pas tellement de traces ou il n'y a pas tellement d'autres signes. Donc, c'est un problème qui n'a pas de solution pour l'instant, mais la plupart des solutions que j'ai vues passer étaient plutôt de la série « Le remède est pire que le mal ». C'est-à-dire effectivement du genre faire signer tous les paquets IP par le CSA avant qu'ils soient injectés sur le réseau, après vérification. Non mais là, ça résoudrait pas mal de problèmes. Bon, on voit bien que c'est pas réaliste comme solution, mais ça résoudrait pas mal de problèmes.
En fait, CRC, c'est Chinese Republic of China.
Non, mais c'est un bon exemple. Enfin, fondamentalement, ce qui caractérise Internet, c'est qu'on n'a pas besoin de demander la permission. On n'a pas besoin de demander la permission pour envoyer un mail, et c'est ça qui permet le spam. On n'a pas besoin de demander la permission pour envoyer un paquet IP, et c'est ça qui permet les DDoS. On n'a pas besoin de demander la permission pour déployer un nouveau protocole ou un nouveau logiciel, et c'est ce qui permet d'avoir plein de trucs plus ou moins bizarres qui traînent. L'alternative, c'est un système où il faut demander la permission. Alors là, on a eu il n'y a pas très longtemps en France, hein, c'était le téléphone et puis le RNIS, à la grande époque de la DGT et puis de France Télécom. Ben, est-ce qu'on veut revenir à ça? Ouais. Moi, je me souviens surtout de l'époque des modems agréés, puis de l'époque où on faisait ramener des modems par les copains qui allaient aux États-Unis, parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France, mais ils n'étaient pas agréés.
Ouais, ils étaient quand même certifiés agréés FCC, non ?
Oui, mais pas agréés en France.
Oui, d'accord, mais je veux dire, tous les pays ont des normes radioélectriques. Ah,
les pays, oui, oui, mais bien sûr, mais la réglementation française à l'époque n'avait pas pour but de protéger les gens contre l'électrocution, elle avait pour but de protéger les fabricants français contre la concurrence US. Donc, c'est pour ça qu'il fallait pas seulement qu'ils soient agréés, il fallait qu'ils soient agréés en France. Donc voilà, mais ça c'est un très bon exemple d'un anti-internet en fait. Utiliser un système de ce genre-là, où il faut une autorisation pour tout, ou par exemple dans le réseau RNIS, on ne pouvait rien développer, il fallait une autorisation. C'est pas refaire l'Internet en partant de zéro, ça c'est faire un autre réseau qui, à bien des égards, serait un anti-Internet.
Ok. Le mot de la fin,
Bah, le mot de la fin, j'aime bien une phrase de Cory Doctorow qui dit que tout écosystème suffisamment évolué a des parasites. Ce qui veut dire, c'est que pas mal d'approches en matière de sécurité voudraient un monde parfait, un monde où il n'y ait aucun problème, aucun parasite, aucune maladie. Et Doctorow dit que c'est non seulement irréaliste, mais c'est dangereux. Parce que c'est l'idéal d'un monde complètement aseptisé, un système réel où les gens vivent, a des parasites, a des problèmes, et le contre-exemple, le système parfait où il n'y a pas de problème, ben c'est le zoo. Dans un zoo, effectivement, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de maladies, mais c'est pas un vrai écosystème qui bouge, qui vibre. Et donc, si on veut aborder des problèmes de sécurité, il faut le faire toujours en se disant l'objectif n'est pas la stérilité complète. L'objectif, c'est de maintenir les phénomènes négatifs, comme le parasite, à un niveau supportable. Et ne pas espérer les faire disparaître, parce que ça mène à des solutions totalitaires.
Bon, eh bien, merci beaucoup de votre attention. Stéphane, merci pour ta participation. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Salut.
À bientôt.
Salut.
Merci.
Merci Stéphane.